Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Aristide pour vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui, en ce mercredi 7 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique à la une de l'actualité ce soir. Au Bénin, l'opposant Joël Aïvo, condamné à 10 ans de prison. Drame au Burundi, au moins 38 morts et 69 blessés dans l'incendie d'une prison à Gitega, la capitale. Au Kenya, un policier tue 6 personnes, dont son épouse, avant de se donner la mort. Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine en sommet virtuel pour tenter de désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports dans environ 10 minutes. Au Bénin, l'opposant Joël Aïvo, professeur de droit dont la candidature à la présidentielle d'avril dernier avait été rejetée, a été condamné à 10 ans de prison aujourd'hui dans un procès pour trahison. De Cotonou, le compte-rendu de notre correspondante Ginette Fleur-Adamdé.
Le constitutionnaliste et opposant béninois Joël Aïvo a été condamné pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Ceci au terme d'un long processus de plus de 8 mois de détention provisoire et de navette entre la prison civile de Cotonou et le siège de la Criette à Porto-Novo. À la lecture du verdict condamnant Joël Aïvo à 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA, l'accusé s'est montré serein et encourageait même ses proches abattus par la décision. À la sortie de la salle d'audience, deux de ses avocats se sont prononcés.
De la tendance générale de la cour, on s'y attendait. Mais en même temps, nous avions un petit lueur d'espoir compte tenu de ce que nous avons perçu comme fait et fond du dossier. Donc nous ne pouvons que prendre acte de la décision intervenue. Quant au recours, nous aviserons.
Le verdict est tombé ce soir. Nous allons nous réunir pour apprécier et voir ce qui est possible.
Joël Aïvo et ses avocats disposent de 15 jours pour faire appel de la décision. Jeudi prochain, ce sera au tour de l'opposante Rekia Madougou, candidate recalée à la dernière élection présidentielle, d'être jugée par la Criette. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs et financement du terrorisme. De Cotonou, Ginette Leadandé pour VOA Afrique.
Tragédie au Burundi, au moins 38 personnes ont été tuées et 69 grièvement blessées dans un incendie qui a ravagé ce matin la prison centrale de la capitale Gitega. C'est ce qu'a indiqué le vice-président Prosper Bazombanza qui s'est rendu sur place. Les détails avec Nathalie Barge.
Le feu s'est déclaré vers 4 heures du matin, surprenant les détenus dans leur sommeil. Il a calciné certaines parties de la prison qui abrite plus de 1500 détenus pour 400 places. Selon la police, les secours ont tardé à se rendre sur place. Un premier camion de pompiers est arrivé 2 heures plus tard, avant d'être rejoint par 6 autres venus de provinces voisines. Le vice-président Prosper Bazombanza et 4 ministres, dont ceux de l'Intérieur et de la Justice, se sont rendus sur les lieux où un important dispositif militaire et policier a été déployé. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'incendie a été causé par un court-circuit comme celui du 21 août qui n'avait pas fait de victimes. Selon l'administration pénitentiaire, les prisons au Burundi abritent près de 13 000 détenus pour une capacité d'environ 4 000 places. En mars dernier, le président Évariste Ndayishimiye a prononcé une grâce pour 5 200 détenus afin de désengorger les prisons.
Au Kenya, un policier a tué par balle 6 personnes, dont son épouse, et en a blessé 2 avant de retourner son arme contre lui. Le point avec John Lyndon.
Armé d'un fusil d'assaut AK-47, le policier a d'abord tué son épouse d'une balle dans le cou, puis a ouvert le feu sur ses voisins de manière indiscriminée dans un quartier populaire de Nairobi. Nous avons 6 morts, tous tués par le forcené avant qu'ils ne se donnent la mort, a expliqué le chef de la police locale, Francis Wahome. 2 autres personnes ont été hospitalisées avec des blessures légères, a-t-il indiqué. L'incident a déclenché la colère du voisinage qui a manifesté en bloquant des rues avec des pneus enflammés. Les raisons de ce coup de folie du policier restent indéterminées, selon le chef de la police. On nous a dit que le couple avait des problèmes et se querellait fréquemment, a-t-il seulement indiqué. Les affaires de policiers utilisant leurs armes de service pour régler des différends personnels et domestiques sont fréquentes au Kenya.
En Afrique du Sud, rejet par le Parlement du projet de loi controversé de redistribution des terres. Il s'agit d'une réforme foncière chère au président Cyril Ramaphosa, qui s'était engagé à corriger ce qui est considéré comme des injustices liées à la dépossession de terres durant l'apartheid. Le projet prévoyait l'expropriation par l'État sans indemnisation de terres détenues en majorité par les Sud-Africains blancs au profit de la majorité noire. Le gouvernement éthiopien accuse les États-Unis de perpétuer un discours destructeur après que Washington et plusieurs de ses alliés se sont dit inquiets d'informations faisant état d'arrestations sur la base de l'appartenance ethnique dans le pays. Le gouvernement fédéral est en guerre depuis un an contre des rebelles de la région du Tigré. Des avocats et des groupes de défense des droits affirment que des milliers de Tigréens ont été arrêtés uniquement sur la base de leur appartenance ethnique. En RD Congo, flambée épidémique de choléra dans le sud Kivu, on dénombre au moins 10 morts depuis samedi dans cette partie du pays où la population est appelée à respecter d'indispensables règles d'hygiène pour endiguer l'épidémie. Les 10 morts, sur un total de 32 cas, ont été rapportés à Missisi dans le territoire de Fizi. La situation n'est pas bonne, affirme Massine Kinenwa, ministre provincial de la Santé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un échange de 2 heures aujourd'hui avec pour principal enjeu la crainte d'escalade militaire en Ukraine. Le point avec Abdourahman Dia.
Les agences de presse russes ont annoncé la fin de la conversation, puis la Maison-Blanche a fait savoir que l'entretien s'était achevé exactement à 17h08 GMT sans donner d'indication sur le contenu dans l'immédiat. « C'est bon de vous revoir », a déclaré Joe Biden au début de la rencontre. « Je vous salue, Monsieur le Président », a dit pour sa part Vladimir Poutine. Le président américain a participé à la conversation depuis la Situation Room de la Maison-Blanche, une salle ultra sécurisée d'où l'exécutif américain pilote les interventions militaires sensibles et fermées aux journalistes. Joe Biden téléphonera demain mardi au président français Emmanuel Macron, à la chancelière allemande Angela Merkel et au premier ministre italien Mario Draghi et britannique Boris Johnson après son échange avec Vladimir Poutine. Joe Biden doit également, dans les jours qui viennent, rendre compte de la conversation au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Washington, l'OTAN et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l'Ukraine en vue d'attaquer le pays, mais le Kremlin dément tout projet d'invasion.
En Chine, pas moins de 71 journalistes ouïghours, professionnels ou non, sont en détention dans le cadre de la répression de cette ethnie musulmane au Xinjiang, d'après RSF, Reporters sans frontières, qui publie aujourd'hui un rapport intitulé « Le grand bond en arrière du journalisme en Chine ». Selon RSF, au moins 127 journalistes sont en détention dans l'ensemble du pays. Paris juge que les propositions formulées par le nouvel exécutif iranien ne constituent pas une base raisonnable pour sauver l'accord qui a pour objectif d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Pour la porte-parole de la diplomatie française, le temps presse car l'Iran poursuit son programme nucléaire sur une trajectoire extrêmement préoccupante. En Indonésie, le bilan de l'éruption du volcan Semeru a grimpé à 34 morts. Le président de cet archipel d'Asie du Sud-Est s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Le plus haut sommet de l'île de Java s'est réveillé samedi dernier, projetant des nuages de cendres qui se sont transformés avec la pluie en flots de boue brûlante, dévastant une dizaine de villages et faisant fuir la population. La Cour européenne des droits de l'homme a une nouvelle fois condamné la Turquie pour violation de la liberté d'expression après les purges massives entamées depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016. La Cour avait été saisie par un enseignant turc qui avait posté en avril 2015 des messages favorables à Fethullah Gulen, bête noire du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ces messages ne suggéraient nullement de recourir à la violence et ne portaient aucun appel à la révolte, note la Cour dans un communiqué. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques, c'est la Minute Éco avec Rosine Mounezero ce soir.
L'économie sud-africaine s'est contractée de 1,5% au troisième trimestre, premier recul du PIB depuis le début de l'année, plombé par les restrictions sanitaires et des émeutes en juillet, selon des statistiques officielles. Cette chute intervient après 4 trimestres consécutifs de croissance, selon l'Agence sud-africaine des statistiques. L'insécurité alimentaire a encore progressé au Sahel et en Afrique de l'Ouest avec 23,7 millions de personnes en situation de crise, soit 7,4% de la population des 15 pays étudiés, déplore le réseau de prévention des crises alimentaires. Son nombre pourrait bondir pendant la période soudure entre les récoltes. Quelques 33,4 millions de personnes risquent d'avoir besoin d'assistance alimentaire immédiate si des actions ne sont pas prises rapidement, selon les acteurs de ce réseau. Au Nigeria, l'agriculture, qui est l'un des principaux piliers de l'économie, est au ralentissement après 2 trimestres de bonne performance. Selon les données du Bureau nigérian des statistiques rapportées par l'agence Ecofin, les exportations de produits ont généré 194 millions de dollars, soit une forte contraction d'environ 52% par rapport à avril et juin.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'Afrique aura finalement 4 représentants en quart de finale de la Coupe arabe de la FIFA. La Tunisie rejoint l'Égypte, le Maroc et l'Algérie en quart. Après sa victoire 1-0 face aux Émirats arabes unis à Doha au Qatar, ce n'est pas le cas par contre pour la Mauritanie malgré sa victoire 2-1 face à la Syrie. La faute aux 2 premières défaites des Mourabitounes. Ligue des champions ce soir en Europe, déjà qualifiée pour les 8e de finale, le PSG et Manchester City reçoivent respectivement le club Bruges et le RB Leipzig. Leipzig et le club Bruges se disputent à distance. La 3e place synonyme de ticket pour la Ligue Europa. Dans la poule B, derrière Liverpool, l'AC Milan et l'Atlético Madrid peuvent chacun rêver de s'inviter dans le top 16 européen. Les Portugais de Porto partent avec un léger avantage en recevant l'Atlético au stade du Dragon et peuvent se contenter du match nul pour se qualifier si Milan ne gagne pas face à Liverpool. Dans le groupe D, le Real Madrid accueille l'Inter Milan pour s'assurer de la 1e place dans un choc au sommet. Plus bas, le Sheriff Tiraspol affronte le Shakhtar Donetsk. 6 joueurs et 2 membres du staff de Tottenham ont été testés positifs au Covid-19, affirment plusieurs médias anglais. Des tests PCR seraient en cours pour confirmer les premiers résultats, précise l'agence de presse PA, rappelant qu'il y a eu 2 cas de faux positifs chez les Spurs mi-octobre. Ces cas de Covid pourraient avoir des répercussions sur les matchs de championnat à venir à Brighton dimanche, puis contre Leicester jeudi et Liverpool le dimanche suivant. Les Spurs viennent de se replacer dans la course à la Ligue des champions avec 3 victoires de rang en Premier League. La France a pris bonne note de l'annonce par les États-Unis d'un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin et va se coordonner avec les autres pays de l'Union européenne sur ce dossier, indique la présidence. La Maison-Blanche a annoncé hier que les États-Unis enverront leurs athlètes aux JO, mais qu'aucun représentant diplomatique ne fera le déplacement en raison des violations des droits de l'homme par la Chine, particulièrement dans la région à majorité musulmane du Xinjiang. Les JO sont prévus du 4 au 20 février 2022, mais du fait des restrictions imposées par la Chine à l'entrée des étrangers au nom de la lutte contre le Covid-19, peu de responsables politiques mondiaux devraient faire le déplacement de Pékin. NBA, Golden State a battu Orlando 126-95. Les Suns sont venus à bout des Spurs 108-104. Les Bulls ont conforté leur deuxième position en battant les Nuggets 109-97. Milwaukee a dominé Cleveland 112-104. Miami est tombé devant Memphis 105-90. Les Clippers ont pris le dessus sur Portland 102-90. Washington a enregistré sa troisième défaite consécutive face aux Pacers cette fois-ci 116-110.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
VOA Afrique, merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la Tranche Magazine. L'ancien patron de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Tidiane Gadio, est au Burkina dans le cadre du festival de films sur les droits humains, Ciné Droits Libres. Lui, qui est le président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance, appelle à une solidarité africaine pour gérer les crises sécuritaires au Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Tidiane Gadio croit en l'unicité de l'Afrique. Depuis Ouagadougou, il répond aux questions de notre correspondant Lamine Traoré.
Bonjour Cheikh Tidiane Gadio.
Bonjour.
Alors vous êtes à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droits Libres. Vous avez donné des communications. Comment vous avez trouvé ce festival?
J'ai trouvé le festival tellement riche, tellement intéressant que j'ai dit à mon ami Abdoulaye Diallo, Guy Hervé Kam, j'ai dit mais écoutez chers amis, ça c'est un des secrets les mieux cachés d'Afrique. Il faut sortir cette affaire de la clandestinité.
Le Burkina, tout comme certains pays du Sahel, traverse une situation sécuritaire difficile. Quelle analyse en faites-vous?
Depuis 2012, quand on a attaqué le Mali, j'ai dit que si on laisse le Mali seul gérer ce problème, ce n'est pas bon. Parce que c'est des forces qui sont motivées, qui viennent de l'extérieur, qui ont des moyens, des ressources et qui trouvent nos États dans parfois des crises de gouvernance, des coups d'État, des États faibles, etc. Et ils viennent, ils font leur boulot et s'installent. J'avais dit qu'une fois qu'ils s'incrustent dans nos sociétés, ils vont métastaser du Mali, ils vont attaquer le Niger, du Niger, ils vont attaquer le Burkina. Et ils vont continuer parce qu'il y a l'espace. De là que j'ai appelé moi une solidarité panafricaine, au plan militaire d'abord. On ne peut pas comprendre qu'on laisse l'armée malienne avec 20 000 hommes défendre 1 200 000 km². C'est une absurdité. Les Africains devaient se mobiliser.
Pourquoi votre pays comme le Sénégal n'envoie pas des troupes au Burkina?
Non, le Sénégal a envoyé des troupes au Mali. Comme malheureusement, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une stratégie régionale ou continentale sur cette question. Et moi, je sais que le président du Sénégal est très sensible à la question parce qu'on échange sur ces questions-là. Je sais qu'il est solidaire du Burkina Faso. Mais ce que nous devrions faire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des dynamiques individuelles. Le Sénégal aime le Burkina, il envoie des soldats. Non, ça ne règle pas le problème. Le Sénégal va venir additionner son problème avec celui du Burkina. Pas le Sénégal individuellement, le Nigeria individuellement, mais l'armée de l'Afrique de l'Ouest. On est la région la plus attaquée aujourd'hui dans le continent. Et chacun d'entre nous veut essayer de solutionner le problème par lui-même et pour lui-même. Et on n'y arrive pas.
Alors, et pour le revenu au Burkina, on a massacré 53 gendarmes. Vous êtes indigné dans une vidéo largement partagée sur les réseaux.
Mais absolument, et je continuerai à le faire et je continue à attirer l'attention. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que les Africains sont très sensibles à ce message. Et ces Africains sont très sensibles à ce message et ils ne sont pas d'accord avec la politique de nos États. Ils sont d'accord que nos États doivent comprendre que défendre le Burkina, c'est défendre toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pas défendre un seul pays.
Vous prenez l'unicité de l'Afrique. Est-ce que vous y croyez, mais véritablement?
Mais si je n'y croyais pas, à quoi bon aller le chanter partout? Moi, je crois en Kwame Nkrumah. Je crois en Cheikh Anta Diop. Je crois en Thomas Sankara, à Amilcar Cabral, à Lumumba, à tous qui ont donné leur vie pour ce continent. Et je pense que on nous a trompés en nous parlant d'État indépendant et souverain. Et nous avons cédé à cette tromperie. Aujourd'hui, il faut laisser toutes ces histoires de côté, nous mettre ensemble, nous unir dans une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça ne veut pas dire que le Burkina va se dissoudre. On sera une puissance mondiale comme l'Inde, comme la Chine très rapidement.
C'était Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, interrogé à Ouagadougou par notre correspondant Lamine Traoré.
vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, les forces de l'ordre ont dispersé une marche tenue par les personnes affectées par les explosions d'un pila du 4 mars 2012. Les manifestants réclament la reconstruction de leur maison détruite lors de cet incident. Ils dénoncent l'impuissance des autorités face à leur situation qui dure depuis 9 ans. Le reportage de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Elles étaient dans la rue, sur l'avenue des Trois Martyrs, près de l'hôpital de Talangaï, pour dire leur colère aux autorités. 9 ans après les explosions de Mpila, ces familles n'ont toujours pas été indemnisées et nombreuses dorment à la belle étoile. Déboussolé, cet habitant du quartier Kangambandi dit pourquoi il est sorti dans la rue ce matin.
Nous avons programmé la marche pacifique depuis longtemps, parce que le comité a été jusqu'au Yo rencontrer le président de la République. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils sont revenus bras-ballants. Il y a eu différents contacts auprès des autorités du pays. Il n'y a pas gain de cause. Il faut donner le message aux autorités. En sortant, on avait même un fil là. Le fil là devait servir d'encadrement de tous les éléments qui nous amènent. Alors la police a usé de ces gaz lacrymogènes. Ils ont même tiré à bas les raisins réels. Nous avons les tués là. Alors, c'est pas sérieux. Nous sommes dans un pays démocratique.
La colère et la frustration ont gagné plusieurs familles qui vivent dans la grande précarité depuis cette explosion.
Nous sommes maintenant dans les tôles. Vous voyez même, les maisons sont cassées. Tout ça. Nous sommes malheureux que nous ne sommes pas bien dans ce quartier-là. J'avais une grande maison ici-là, mais il n'y a plus rien.
Mais la manifestation a rapidement été dispersée par la police qui avait pris position devant le quartier très tôt ce mardi matin. Quelques jours avant, le Premier ministre a été interpellé au Sénat pour cette situation. Face à la crise financière, l'embarras du gouvernement pour liquider ce contentieux demeure. Anatole Koliné-Makosso.
Quelques 2 milliards nous pouvons inscrire au budget qui nous amèneront à régler définitivement le problème du 4 mars qui se chiffre à près d'une centaine de milliards à la vérité. Si on tient compte de la dette économique, de ce qu'il faut donner aux opérateurs économiques de la zone, de comment reloger les populations, le préjudice subi, c'est un montant très lourd. On n'arrivera pas à bout avec les allocations d'un milliard. La seule chose que nous avons faite, le gouvernement a pris l'option de traiter cela dans un cadre global.
Sur le site des explosions, des centaines de logements ont été construits, mais ne sont toujours pas occupés. Les autorités envisagent désormais de les revendre aux jeunes fonctionnaires. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Sénégal, les violences dans les stades sont de plus en plus récurrentes. Hier, lors d'un match de football au stade Ngalandou Diouf de Rufisque près de Dakar, un pénalty contesté a entraîné des débordements qui ont fait écrouler un mur du stade, ce qui a fait un mort et plusieurs blessés. Des violences similaires durant le week-end écoulé ont fait 2 morts et plusieurs blessés lors d'un match dans la même ville. Le ministre des Sports, Matar Ba, a déclaré que ces rencontres, dites « navétanes », seront suspendus. Le chef de l'État, Macky Sall, a dénoncé la vague de violence. Yacouba Ouidraogo a joint le commissaire de police à la retraite, Bassamba Camara, originaire de Rufisque, résident à Dakar.
On assiste à très grave violence. Vous savez, on a une société qui est frappée régulièrement à l'évolution. Alors, il y a une jeunesse là qui a accumulé tellement de frustration, qui déverse donc cette colère.
Est-ce qu'il y a suffisamment de forces de l'ordre, justement, lors de ces rencontres sportives-là, pour contenir un peu ces débordements?
À ce niveau, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun problème. Les forces de l'ordre de Sénégal sont très professionnelles et assez outillées. Parce que chaque fois qu'il y a ce genre de situation, par exemple, quand il y a des manifestations sportives, que ce soit à la Ligue ou bien au football, il y a une certaine nombre de suffisants de membres des forces de l'ordre qui sont prévus à aller faire sur ce travail de sécurisation avant, pendant et après. On le sait. Après même les compétitions sportives, les forces de l'ordre accompagnent les spectateurs. Juste dans le quartier pour éviter qu'il y ait encore des disciplines en dehors du stade.
Est-ce qu'il faut rechercher les causes de cette colère-là au-delà du football ou au-delà de la lutte ou au-delà du sport simplement?
Oui, c'est une jeunesse qui a accumulé tellement de frustration, tellement de colère. dans ce stade un exutoire. Réunit la violence verbale et la violence physique même sur le champ politique. Aujourd'hui, la société sénégalaise vraiment est devenue une société très violente, ça va de tous les côtés. Vous avez aujourd'hui de l'ancien là, abandon, et puis qui est le terrain elle-même. C'est un phénomène sociétal, c'est un phénomène qui est très profond, le mal est très profond. Donc il faudra vraiment que toutes les couches de ce pays, soit ce qu'on appelle ici une sorte d'assemblée générale, pour pouvoir détenir les aboutissants de ce phénomène de violence et parler à ces jeunes-là pour que vraiment on a que cette histoire-là vraiment à jamais banni dans le cercle.
Le ministre des Sports, Matarba, a annoncé la suspension de ses matchs de quartier. Le président Macky Sall dit sévir désormais. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
On ne peut pas continuer vraiment à être laxiste au niveau des sanctions. Vous savez, tout est passé en Suisse. Il y a quelques années, ce stade-là a été suspendu pendant 7 ans. Alors, l'État a fait des efforts, on a reconstruit ce stade. Aujourd'hui, on revoit ça. Il faut qu'on en arrive à des solutions extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut que ce stade-là, que ce championnat populaire-là, même si c'est de l'ICLA, vraiment qu'on arrête et qu'on revoit vraiment comment faire pour l'éducation de ces jeunes. Parce que le championnat n'a été normalement, ça dure 3 mois. Aujourd'hui, les jeunes ne vont plus à l'école. Mais aujourd'hui, ce championnat populaire qui génère, ça a été dit, beaucoup d'argent de la part de ces dirigeants qui ne veulent pas que ce championnat soit suspendu. Parce que c'est des gens qui méritent ça.
Le commissaire de police à la retraite, Bassamba Camara, originaire de Rufisque, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
La Chine accuse les États-Unis d'avoir violé l'esprit olympique. L'administration Biden a annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, mais les athlètes américains seront sur place. Washington évoque la situation des droits humains, particulièrement le traitement réservé aux Ouïghours, une minorité musulmane en Chine. John Linden s'est entretenu avec Brett Bruen, président du think tank américain, la Global Situation Room.
Clair, mais pas assez direct que pour nous, les événements, l'oppression des Ouïghours dans l'ouest de la Chine n'est pas acceptable. Et nous n'allons pas participer au niveau des officiels dans les Jeux olympiques. Et ça pourrait être un problème pour la Chine qui voudrait présenter une image au monde qui est d'un pays moderne, d'un pays en voie de non seulement développement, mais d'une puissance globale. Et avec la manque d'une participation d'un pays comme les États-Unis au niveau des officiels, ça représente peut-être un problème diplomatique, mais aussi économique pour la Chine.
Mais sauf que la Chine, justement, accuse les États-Unis de violer l'esprit des Jeux olympiques.
Oui, mais la participation au niveau des équipes sportives, c'est là, mais le gouvernement n'est pas obligé d'y aller. Et c'est ça que Washington a pris la décision. Nous pouvons continuer avec la participation des nos jeunes qui voudraient avoir la chance, voudraient avoir la possibilité d'y être, sans avoir la participation des officiels du gouvernement qui ne veulent pas donner l'impression que les choses vont bien au niveau politique, qui vont bien au niveau du respect pour les droits de l'homme.
Et sur le plan strictement sportif, qu'est-ce que vous souhaitez aux athlètes américains qui participeront à ces Jeux?
Bon, comme d'habitude, on souhaite qu'ils auront des bonnes performances, qu'ils auront des médailles, qu'ils auront aussi l'esprit olympique qui existe toujours et surtout au niveau des relations personnelles, des relations humaines qu'on pourrait rencontrer des terrains communs, qu'on pourrait avoir certains liens, certaines connexions qui on espère, pourrait être le point pour lequel le monde et surtout les pays, les grandes puissances pourraient se réétablir une certaine coopération.
Brett Bruen, président du think tank américain, la Global Situation Room. Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.